Et elle va vous dire bonjour.
Bonjour.
Et voilà, c'est elle, Claire-Elisabeth Coursier, notre coach et votre coach, qui est là pour une thématique du mois. Et si vous vous engagiez à redevenir maître de vous-même, telle est cette thématique que nous allons développer tout au long de cette heure, trois quarts d'heure quoi. Donc <C'est> voilà, on peut débuter si tu es prête dans les starting blocks.
Mais bien sûr, je trouve que tu nous as bien mis en jambes hein, avec cette belle poésie dans tes propos. C'était très agréable, j'ai beaucoup apprécié.
Ah c'était oui, j'ai pris sympa. Des pilules bleues ce matin.
C'est
je
ça.
Me suis trompé,
c'est
en
donc
fait.
Ça, ah, le c'est secret. Ça, t'as pas pris la rouge.
Et voilà, la rouge c'était pour la gorge hein, parce que je suis un peu enroué. Puis voilà, j'ai pris la bleue. Désolé.
Il va falloir prendre soin de soi.
C'est clair.
Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler de la thématique redevenir maître de soi. C'est une thématique qui est particulièrement vaste, particulièrement générale, qui englobe bien des réflexions de vie, c'est vrai. Mais moi, j'avais dans l'idée, en fait, de parler plus précisément de quelque chose par rapport à ce challenge bien-être, on va dire. C'est tout simplement que notre bonheur ne dépend que de nous. C'était ça qui résidait derrière ce challenge. Alors avant tout, avant de commencer, il me paraissait quand même assez important et puis ça me tenait vraiment vraiment à cœur d'évoquer, de vous confier que c'est une personne vraiment brillante dans tous les sens du terme qui m'a parlé de ce sujet-là, dans un but bien défini, évoquer les maux de la société d'aujourd'hui avec une approche vraiment bien particulière au sujet des souffrances physiques et mentales qui sont intrinsèques aux maladies chroniques par exemple ou aux maladies dites plus de l'invisible comme par exemple la fibromyalgie, les maladies auto-immunes, le diabète, l'hyperméabilité, les algies, etc. Et qu'on ne connaît pas forcément aussi, hein, d'ailleurs, et qui possède un réel impact dans le quotidien des personnes concernées.
Et oui, on ne sait pas vraiment d'où ça vient aussi, selon chaque patient.
Tout à fait, on en parlera un petit peu plus, un peu plus tard au niveau de la signification, bien qu'évidemment, ça reste toujours des pistes à aborder, mais avec, avec parcimonie et précaution. Mais c'est vrai que c'est en tout cas beaucoup de maladies comme ça qui deviennent de plus en plus reconnues actuellement, comme la fibromyalgie, j'y pense beaucoup, parce qu'on entend de plus en plus parler de cette maladie en affirmant qu'effectivement, elle existe bien. Et c'est vrai que ce sont des souffrances qui ne se voient pas. Et à partir du moment où ça ne se voit pas, c'est difficile du coup de se faire reconnaître auprès des autres, dans le regard de l'autre. Et c'est ce qui peut aussi poser un peu des problèmes en dehors des souffrances physiques aussi qui sont liées vraiment à la maladie. Donc c'était ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. L'enjeu en fait de cette chronique, c'était de proposer des alternatives pour ne plus subir ni être victime en fait de ces pathologies, mais au contraire reprendre un certain contrôle sur l'impact que celles-ci peuvent avoir sur soi.
Alors, on est toutes, oui. Comment qu'on fait?
Comment qu'on fait? Alors déjà, petite mise en garde, ce dont nous allons parler aujourd'hui, ça va pas vous permettre d'éradiquer la souffrance quand j'en ai pathologie. Malheureusement, je n'ai pas la petite baguette magique qui pourrait vous délivrer. Et combien j'aimerais pourtant que ce soit le cas. Cependant, ça va être de vous apporter cette nouvelle certitude, c'est que votre état d'esprit peut amener à changer votre façon de vivre les symptômes. Ça va pas les transformer, mais la manière de les approcher pourrait être différente avec certaines pratiques, certaines alternatives, certaines manières d'agir. Et c'est ce qui pourrait vous aider justement à apporter ce qui pourrait apporter du changement dans votre quotidien à vous et donc de vous sentir plus apaisé peut-être, soulagé par rapport aux aspects difficiles que vous pouvez vivre parfois au quotidien. Voilà.
Donc pas trop subir en fait.
Exactement.
Mais plutôt accepter. Non, c'est
accepter
pas ça.
Et donc se retrouver plus en état, en marche, en action, en dynamisme par rapport à la maladie pour ne plus la subir pleinement et se laisser aller à elle. Non, c'est pas exactement en fait cette attitude qu'il est préconisé d'avoir. Donc on va commencer d'abord par le mental qui, comme vous l'aurez compris, parce que depuis le temps qu'on fait ces chroniques et qu'on se connaît et qu'on en parle, le mental est super, super important, très très fort, et tout passe par lui. Je vous apprends rien, hein, le pouvoir de l'esprit est impressionnant sur notre quotidien. Pourquoi est-ce que ça changerait aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça changerait à travers les maladies? Ça reste notre force intérieure, ce mental. Je vais vous rappeler un petit peu, vous rafraîchir la mémoire avec la fameuse loi des séries, n'est-ce pas, avec l'ampoule qui grille au plafond, dans la cuisine, la porte du lave-linge qui se casse, le lave-vaisselle qui fuit. Il est important de toujours garder en tête que s'il y a un yin, il existe aussi un yang, d'accord? Il y a la loi des séries, mais oui. La loi d'attraction.
Et comment l'inverser?
Dans l'approche mentale, ah, justement. Oui. Si on part du principe que, voilà, il y a le principe féminin, le principe masculin, à la nuit, on a le jour. Enfin, il y a toujours, du coup, son contraire. Au malheur existe le bonheur. Enfin, voilà, c'est toujours complémentaire. Il y a toujours une contrebalance qui existe. Et l'idée, c'est de réussir à comprendre que même à travers la maladie, après la pluie, peut venir le beau temps, effectivement, dans le sens où on peut s'attirer aussi des bonnes choses avec la fameuse loi d'attraction. S'il y a un cercle vicieux qui existe, le cercle vertueux, lui aussi, existe pleinement. Donc en fait, il ne tient qu'à nous de faire la différence dans la rupture du cercle qui ne nous convient pas. On va un petit peu schématiser, mais vraiment, je dirais, de manière vulgaire, mais dans le sens où c'est vraiment le gros exemple super gros, quoi, hein, qui est vraiment très exagéré. On a passé une mauvaise nuit, on a du mal à émerger quand le téléphone sonne ou le réveil sonne, on se lève du pied gauche, on va renverser son café, son jus d'orange, on fait des pâtés avec son mascara quand on est en train de l'appliquer dans la salle de bain, on va perdre ses clés pour partir au boulot, et puis il commence à geler, en tout cas par chez nous. Donc du coup, il faut gratter la voiture, il faut gratter tous les pare-brises, mais bon... oui, en même temps, l'heure, elle passe et du coup, je vais être en retard au boulot. Par la suite, bah, du coup, on continue en général à ruminer. Ça se passe plutôt mal. Seulement, j'aimerais vous demander si vous pensez qu'en vous agaçant dans les bouchons le matin, bah, ça va vous aider à arriver plus vite. Si vous pensez que c'est en ruminant toute la journée, la mauvaise nuit passée, la difficulté de la journée, en vous focalisant sur votre non-motivation du jour, ça va vous aider à vivre mieux, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben non, ça plombe un petit peu. Hein. On a hâte que la journée se finisse et puis en fait, elle passe pas plus vite du tout.
Et
quoi,
non,
en général.
Et du coup, c'est vraiment un calvaire, quoi, hein, du début jusqu'à la fin. Et on se dit que c'était une journée où j'aurais mieux fait de rester couchée.
Exactement, pour pas être vulgaire.
Exactement. Alors voilà, c'est comme je vous le disais, c'est très imagé, très exagéré et bien entendu vraiment décalé par rapport au vécu quand on vit une pathologie particulière. Mais il n'empêche que ce sont des schémas qui sont très représentatifs de notre comportement en tant qu'être humain. C'est-à-dire que ce sont des schémas qu'on a tendance à répéter tout au long de notre vie et qu'il est absolument nécessaire de modifier, qu'on soit malade ou qu'on ne le soit pas. En fait, l'être humain a vraiment la fâcheuse habitude, on va dire, de ne se concentrer que sur ce qui ne va pas ou plus dans sa vie. C'est assez dur à reconnaître, mais il nous faut malheureusement être dans le malheur pour se rendre compte qu'on a été dans une période de bonheur. Il faut avoir, pour pouvoir être réconforté, il faut avoir connu la peur, pour pouvoir être choyé, dorloté, il faut avoir été blessé. Donc c'est que à des conditions négatives que l'on arrive à profiter des choses qui sont positives. Et c'est en ça, je trouve, que c'est dommage. Au niveau de l'être humain, de sa manière
ouais,
de fonctionner.
Ouais, malheureusement, c'est vrai.
Et oui, c'est très rare quand on a cette manière de penser assez spontanée en pensant « Ah non, mais là, je suis en pleine période de bonheur, c'est trop génial, il faut que j'en profite avant qu'un malheur ne m'arrive. » Voilà, c'est très très rare de penser comme ça en général.
Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Vince ?
Oui, je pense que c'est ça. On est toujours dans ce processus là de ouais. Cercle vicieux, en fait.
Tout à fait.
Et on n'arrive pas à s'autogérer... Et voilà, après, peut-être que le temps aidant aussi.
Il y en a qui arrivent après, je pense. Ou alors, il faut une certaine maturité ou beaucoup d'expérience, bah, souvent négative. Hein,
oui.
Les personnes que je rencontre qui me disent bah, « J'ai eu une période noire où il m'arrivait que des malheurs. » Et puis d'un seul coup, un jour, voilà, j'ai rencontré telle personne. Ou alors, je me suis dit « Bon, bah, ça suffit, maintenant, ça va aller. » Et puis...
Ces personnes arrivent à relativiser par la suite, du
voilà.
coup, à faire en sorte
Mais il faut, en général, les personnes que je rencontre qui m'en parlent, il faut un certain temps, quoi, ouais. un nombre d'années avant d'arriver à voir le positif, quoi, et puis à être dans le bonheur.
Exactement, dans l'instant présent, on va y revenir, oui. justement. Donc, comme je vous le disais, du coup, l'être humain a vraiment cette fâcheuse habitude de ne pas savoir profiter de l'instant présent, finalement, tel qu'il s'offre à lui, alors que c'est à travers celui-ci hein, qu'il pourrait avoir l'opportunité d'agir sur lui en temps et en heure si justement il ne lui convient pas. Par contre, en se focalisant sur le passé ou sur l'avenir sans saisir l'instant présent, c'est assez compliqué justement d'intervenir et donc on se retrouve plutôt en train de subir et spectateur aussi de sa vie plutôt que d'être dans l'action. Donc certaines personnes pourront appeler ça la positive attitude, voire la bisounours attitude. Voilà, ça dépend.
Comme la chanson de cette chanteuse-là.
Oui,
elle
j'ai encore ses.
Attitude,
oui, j'ai ses posters encore dans ma chambre et ses disques.
La blonde là,
Laurie.
Laurie.
Ouais, oh, Laurie. Ouais, c'est notre jeunesse ça.
C'est clair.
Donc enfin, oui, pour elle, on pourrait dire, voilà, ça peut, certaines personnes vont dire positive attitude, ou d'autres, pour se moquer de vous, vont dire bisounours attitude, tu te rends pas compte dans quel monde d'envie, etc. Dans le développement personnel, on parlera plutôt du fait que vous devenez maître de votre vie. Là est la grande différence. C'est-à-dire que, comme pour tout, comme pour le reste, il est toujours affaire de perception. Moi, je vous laisse le choix d'être soit dans l'utopie et ce qui paraît donc inaccessible, et donc finalement, bon, bah, très bien, c'est comme ça, je reste dans le négatif et je ne me focalise que dessus. Ou alors, vous décidez d'être un petit peu plus dans une approche active et dans votre propre vie. Et finalement, bah, vous vous retrouvez à prendre un nouveau tournant et à interpréter les choses de manière plus constructive pour vous, pour qu'elles vous portent davantage, malgré déjà des aléas qui sont indépendants de votre volonté. Alors l'idée, c'est qu'avec la maladie, on peut se poser la question, est-ce qu'il est réalisable ou pas de rompre avec ce genre de schéma d'autoflagellation, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut l'appeler, qui va se révéler lorsque la manifestation de la maladie devient une obsession. Alors quand je parle de manifestation de la maladie, j'entends bien évidemment les symptômes.
Mais oui.
Quand j'entends les symptômes, j'entends bien évidemment les symptômes qui sont là, maintenant, tout de suite dans ma maladie, mais aussi ceux que j'anticipe. C'est-à-dire ceux que je pense, ah oui, mais à un moment donné, ça va pas le faire à cause de la maladie, du coup, je ne vais pas pouvoir faire ceci ou cela. Et c'est cette anticipation-là que vous allez être dans le pouvoir de changer, exactement, de transformer, pour réussir à, certes, faire avec, à anticiper et à vous préparer, mais d'une manière non pas négative, en disant, de toute façon, ça va arriver. Ça va être plus se préparer pour réussir à faire en sorte que ça se passe le mieux possible et vous accompagner dans les moments les moins faciles. Voilà, c'est vraiment cette idée-là, dans l'idée de se prendre par la main pour avancer plus positivement, en fait. Hein. Moi, je reste convaincue que si une journée n'est pas forcément réussie, il y a toujours quelque chose de réussi dans une journée. Et même quand on est dans la maladie, et je parle aussi en connaissance de cause, hein, bien évidemment, sinon je ne me permettrai pas, mais je pense qu'il est malgré tout possible et intéressant de se focaliser sur quelque chose qui a été réussi dans la journée pour se donner l'envie de continuer et se porter, se stimuler, s'encourager, se valoriser. Il me paraît indispensable de parvenir à regarder au-delà du mal qui ronge, en fait, à ce moment-là, la personne qui subit la maladie. Parce qu'en se focalisant dessus, en ruminant l'ensemble des symptômes qui sont pesants, ça va être un peu comme se maintenir la tête sous l'eau, en fait, hein, de se noyer dans le négatif. Seulement, vous avez besoin de respirer. Et alors, bah, selon vous, qu'est-ce que ce serait, cette bouffée d'oxygène ?
Qu'est-ce que ce serait ?
Ah, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait peut-être s'ouvrir aux autres, finalement ?
Alors,
avoir un dialogue, essayer de prendre sur soi, même si on n'a pas trop envie, puis finalement, au cours d'une discussion, ça peut déclencher quelque chose.
Une discussion qui porte sur quoi ?
Sur
la maladie ou sur autre chose ?
Sur autre chose,
ouais.
Peut-être qui pourrait nous déconnecter un peu quelques minutes.
Exactement, parce que le problème essentiel, c'est ça.
C'est de ne pas s'enfermer.
Exactement, ne pas s'enfermer sur la maladie qui nous emprisonne déjà au niveau du mental, puis peut-être même du physique, hein, selon les pathologies. Donc on peut se ressentir comme un petit peu enfermé dans une prison, c'est quelque chose qui est tout à fait d'ailleurs légitime. Mais l'idée, c'est de réussir à s'ouvrir à autre chose, par l'intermédiaire d'autre chose, pour finalement ne plus exister. Exister par la maladie, mais exister par soi. La bouffée d'oxygène, ça va être vraiment soi, voilà, réussir à être soi, à s'ouvrir en tant que soi, le fait d'exister en tant que soi. C'est très important. Alors du coup, bah, j'ai envie, pour vous amener à tout ça, de vous recommander 3 nouvelles habitudes de vie à adopter au quotidien.
Attends, je prends note.
C'est bien,
stylo.
Sans son stylo, c'est parfait. Alors la première habitude de vie, ça va concerner le matin, au lever ou en tout cas dans la matinée. Pourquoi ? Tout simplement pour bien entamer l'ensemble de la journée qui va se présenter à soi. Ça va être de se regarder bien attentivement dans le miroir et se faire ce fameux compliment, comme on l'a déjà abordé, à haute voix. Devant soi, en se regardant droit dans les yeux, sincèrement. Je vous recommande vraiment de prendre le temps de remarquer des choses positives, du reflet que vous renvoie le miroir, des choses positives sur votre physique, votre personnalité, peu importe. Mais sachez reconnaître des valeurs qui sont positives à votre égard, en vous regardant droit dans les yeux et en vous adressant à vous-même, avec cette même conviction finalement que celle que vous pourriez avoir pour un ou une amie. Ce qui est important, c'est de devenir bienveillant envers soi-même. Moi, j'ai remarqué par rapport à la maladie, que le fait de subir la maladie rend totalement vulnérable. Donc derrière cette vulnérabilité se traduit vraiment la culpabilité derrière. Alors, la culpabilité, c'est vrai que même si on peut se sentir dans une certaine incompréhension, pourquoi est-ce que ça m'arrive, pourquoi à moi, pourquoi maintenant aussi, hein, selon quand est-ce que ça arrive, ça me semble injuste, etc. L'esprit humain va quand même interpréter la maladie comme une punition. Du coup, l'inconscient, par conséquent, va entretenir cette punition en vous blessant davantage à travers le regard critique que vous allez porter sur vous-même. Donc, c'est-à-dire quand vous allez vous regarder dans le miroir, « Oh là là, t'as vu comment tu es fatiguée, cette tête de déterré que tu as à cause de la maladie, et puis de toute façon, voilà, on voit que j'ai les traits tirés. » Ou voilà, ce genre de choses, ça peut très bien être à travers des comportements. « J'arrive pas du coup à me lever, j'arrive pas à faire ceci, à faire cela. » Et dire qu'avant, j'étais en capacité de travailler ceci, de faire du jardinage, de cuisiner. Et aujourd'hui, je ne suis capable plus de rien. Tout ça, ce sont clairement des blessures qu'inflige votre inconscient qui va entretenir déjà la difficulté de vivre la maladie. Et donc, c'est un schéma qui est très destructeur. Donc, moi, je vous encourage à vous valoriser parce que la maladie ne vous ressemble pas. Elle ne fait pas l'être que vous êtes. Votre être intérieur, c'est votre volonté seule qui est à même de le modeler et de le créer. Donc, ne laissez pas à la maladie la possibilité d'être à votre place, en fait. Hein. C'est vraiment à partir de cet état d'esprit-là qu'il faut partir.
Oui, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit « On n'est pas, si tu es malade, tu n'es pas que ça. »
C'est ça. On n'est pas réduit à la maladie.
Tu n'es pas que ça. Il faut que tu... Ben voilà, justement, tu acceptes que, en ce moment-là, ben, tu as cette maladie, mais tu n'es pas que ça.
Et
tu sais faire ça.
D'eux, mais voilà. Voilà, exactement.
Tu sais faire ça aussi. Tu es capable de faire ça malgré ce mal. Et puis, tu vas voir que... Au fur et à mesure, tu vas prendre conscience de tes capacités, ça va aller mieux.
Tout à fait, parce que du coup, la maladie va se retrouver, on l'abordera d'ailleurs un tout petit peu plus après, elle va se retrouver un petit peu en terrain inférieur, hein, finalement. Son seul moyen à elle, la maladie, ça va être d'imposer les symptômes, oui. Finalement, au corps pour dire « Eh oh, je suis là, on ne me voit pas, mais je suis là, j'ai bien envie de t'embêter aujourd'hui encore plus que d'habitude. » C'est un petit peu sa manière d'exister et de prendre sa place. Exactement, l'idée, c'est de réussir à se désencombrer de cette emprisonnement que la maladie essaye de nous infliger à travers les mots du quotidien. Donc, commencez par vous faire un compliment, vous valoriser positivement le matin. Faites-vous des sourires aussi, le fameux exercice du sourire qu'on peut appliquer à bien des thématiques, mais notamment à travers cette thématique aujourd'hui par rapport à la maladie. Un premier, un deuxième, un troisième, jusqu'à 10. Vous verrez donc, du coup, comme d'habitude, hein, au début, c'est crispé, c'est forcé, ça ressemble à des grimaces, ça ressemble à rien. Puis petit à petit, ça va vous décontracter. Et finalement, c'est ce 10e sourire qui va compter davantage et qui fera la différence face au miroir lorsque vous aurez justement ce reflet d'une image positive que votre inconscient va intégrer. Et c'est en ça que du coup, votre manière de vous approcher vous-même sera différente, complètement différente. Prenez-en l'habitude, vous pouvez le partager avec vos enfants, le conjoint, un ami ou juste avec soi-même. On peut le faire à voix haute, c'est encore mieux. Et si vous appréciez l'idée de faire ce qu'on appelle une sorte de feedback, c'est-à-dire au bout de quelques mois, faire un petit retour en arrière sur le chemin que l'on a parcouru dans son propre développement personnel et dans son approche de soi, je vous invite à investir dans une sorte de petit carnet, une sorte de carnet de bord en fait, et vous allez me noter à chaque fois ce fameux encouragement que vous aurez fait le matin, sans oublier les deux autres nouvelles habitudes à intégrer au quotidien, celles plutôt en fin de journée. Pourquoi ? Pour laisser l'occasion justement à la journée de se dérouler. La première, ça va être la fierté de la journée. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de fierté ? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire et que vous ne pensiez pas lorsque vous vous êtes levé ? Quelque chose qui vous stimule, qui vous plaît. Et la deuxième chose, ça va être d'indiquer ce que vous avez le plus apprécié dans cette journée, le plus aimé. Donc, ça reste différent parce que du coup, la fierté, c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à faire malgré, d'accord ? Ça va être peut-être juste prendre l'air dans le jardin, hein ? Et pas forcément avoir fait le marathon de New York, c'est pas forcément ça. L'idée, c'est vraiment de réussir à mettre en valeur, en évidence, quelque chose que l'on a fait, que l'on ne se pensait pas capable de réaliser. Oh, faut respirer. et puis de trouver le point le plus appréciable de la journée. Ça peut être une rencontre, un échange, une lecture. Ça va être un apprentissage sur quelque chose à travers un article, à travers une interview, à travers une série télévisée ou à travers de la lecture de romans ou d'articles. Peu importe. Ça va être aussi à travers une expérience, à travers un échange particulier avec une personne, une rencontre, un sourire, une surprise. Bref, un moment qui vous a particulièrement touché. Et focalisez-vous dessus en fin de journée pour ne pas rester sur une note qui pourrait être négative lorsque vous allez vous coucher et donc recommencer la journée le lendemain. Mais l'idée, ça va être de réussir à partir sur une bonne note positive avec le compliment, il a terminé cette journée avec quelque chose de positif aussi. Et donc ce petit carnet pourra vous permettre de retranscrire sur l'ensemble de votre journée, de glisser chacune de ces annotations quotidiennes pour faire en sorte que vous vous souveniez du chemin que vous avez parcouru.
Mais c'est important.
Très, très, très.
On n'a pas conscience toujours, mais on en parcourt du chemin... Et ça passe vite, quoi.
Exactement, et c'est important aussi de savoir se retourner pour se rendre compte de l'évolution. C'est toujours plus facile de regarder l'évolution des autres plutôt que la sienne.
Oui, je suis d'accord.
On fait une pause musicale. Tu parlais de miroir, Claire-Elisabeth.
Exactement.
Et j'ai vite trouvé un titre de John Frusciante, guitariste Red Hot Chili Peppers, et le titre c'est The Mirror, tout simplement.
Yes.
Le miroir. C'est parti. Vous êtes sur Fréquence Mistral et nous sommes en direct et nous sommes le 16 novembre et qui dit jeudi, c'est déjà le troisième du mois, comme ça passe
c'est
vite.
Ça.
Cela signifie que vous avez rendez-vous avec Claire-Elisabeth pour l'instant bien-être. Et si vous nous rejoignez en cours de route, la thématique c'est ce mois-ci je m'engageais à devenir, redevenir maître de moi et on va aborder... Eh bien, les techniques et pratiques spécifiques hein, pour se sentir soulagé, Claire-Elisabeth.
Exactement. Donc après avoir pris conscience finalement que notre mental joue beaucoup aussi sur notre manière de vivre la maladie, ça n'empêche pas les symptômes, comme on le disait, ça n'empêche pas de que la maladie existe et soit bel et bien là. Par contre, elle peut nous permettre d'avoir plus ou moins de force pour l'aborder, pour l'affronter aussi, pour vivre au quotidien avec elle. Donc on a vu à quel point le mental était important. important, c'est pourquoi il était intéressant de se prendre par la main pour réussir à s'encourager, pour réussir à se motiver, à se valoriser, chose que l'on a du mal quand on est malade. Il existe aussi des techniques, des pratiques, je dirais même des thérapies qui peuvent aider dans le cheminement de la maladie. Alors ça va aider, non pas là encore, à éradiquer des symptômes, hein, ça ne guérit pas. Si certains traitements médicaux n'y parviennent pas, il est difficile de penser qu'une thérapie alternative puisse clairement vous guérir. Par contre, elle peut vous accompagner à vous apaiser, à vous soulager aussi, hein, que ce soit dans votre mental ou dans votre physique aussi, hein, au niveau des ressentis. Pour ça, vous pouvez faire appel notamment à l'hypnose. L'hypnose est assez intéressante pour le traitement l'accompagnement du suivi dans la maladie au niveau des personnes, parce que en dehors de l'aspect du fameux maladie, hein, je crois qu'on en avait déjà parlé.
Le maladie.
Exactement. Ouais, tout à fait. Le maladie, qui me semble toujours intéressant de façon de décrypter lorsqu'il s'agit d'un diagnostic médical qui est prononcé, notamment à travers le livre de Jacques Martel, le dictionnaire des mots, qui est très intéressant parce qu'il prend vraiment un ensemble de pathologies, de la plus basique et bénigne, comme un simple rhume, à quelque chose de vraiment très, comme la fibromyalgie par exemple, ou même les cancers, selon les spécificités, etc. C'est très intéressant à le lire. En dehors donc de la possibilité de comprendre la signification du mal qui s'attaque à nous, eh bien l'hypnose peut vous aider à mieux supporter les douleurs, peut-être même à mieux les appréhender lorsque du coup elles viennent par vagues, on va dire. Hein. Donc ainsi, il pourrait devenir plus aisé de prendre en considération le mal dans le but de l'accompagner et non plus dans l'état de se soumettre à la maladie qui va dicter ses lois. De toute façon, je ne peux rien y faire, donc on va l'aller laisser s'acharner sur moi, je me laisse faire, et là c'est encore plus violent, d'accord ?
Je suis d'accord.
Le thérapeute peut vous enseigner des exercices d'auto-hypnose, par exemple, pour la gestion du sommeil, l'anxiété aussi.
Ah, ça existe, l'auto-hypnose.
Exactement, des petits exercices, hein, on pourrait pratiquer, c'est intéressant.
Mais oui, tout à fait.
Tout à fait, ça peut aider justement lorsque, du coup, il y a certaines maladies qui engendrent des insomnies, par exemple. Donc, on peut vous orienter dans des exercices d'auto-hypnose que vous pouvez pratiquer. Parce que, faire intervenir un hypnothérapeute tous les jours à votre heure du coucher, ça peut paraître un peu compliqué quand même.
Et oui, un déjà peu onéreux. Les médecins traditionnels ne se déplacent même plus chez les gens. Alors
là, du coup, ça risque d'être compliqué, effectivement. Hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir des exercices d'auto-hypnose pour réussir à lâcher prise face aux problématiques des maladies rencontrées et subies, ce qui va permettre de comprendre la maladie et de l'accompagner, et non plus d'être en éternel conflit avec elle. Cette thérapie a pour objectif d'apaiser un mental qui est bien souvent torturé par ce qui lui arrive, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, hein, ce qui entraîne inévitablement de la crispation et des souffrances supplémentaires. Pour les femmes, j'ai tendance à illustrer ce que je viens de vous expliquer par l'accouchement. En général, quand les contractions, les douleurs de l'accouchement, les contractions qui se manifestent au moment de l'accouchement, hein, pour la naissance de l'enfant, eh bien, il est déconseillé de lutter contre les contractions. Car plus vous allez lutter, plus vous allez vous crisper, plus vous allez souffrir.
Ouais, c'est ce qu'on nous dit, les sages-femmes sont là, bon, mais respirez.
C'est ça, respirez. Du coup, on va relier avec la respiration, avec le fameux...
Ouais.
Exactement, pour laisser finalement à la contraction, on va dire... le moyen de s'exprimer, d'accord, sans que nous, on soit dans le conflit et de la bloquer. Au plus, elle va s'exprimer et on va l'accompagner dans l'expression de ce qu'elle a à dire, cette fameuse contraction, au mieux, on va pouvoir la laisser filer plus facilement, en fait, finalement. Hein. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc, l'enjeu est identique à travers la méthode de l'hypnose, c'est-à-dire qu'on va accompagner les symptômes, on ne va pas lutter contre eux, on ne va pas lutter contre la maladie en elle-même. Par contre, on va l'accompagner en l'acceptant. Et en ça, on peut utiliser deux autres techniques qui s'apparentent presque. Il y a l'EFT, dont on a déjà parlé, et le MDR aussi. Donc l'EFT, en français, je vous le rappelle, parce qu'en anglais, j'ai pas forcément le fameux accent qui va bien. Donc ça va être la technique de libération émotionnelle. Et le MDR, en français, ça va être la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires. D'accord ? Donc en fait, à mon sens, encore une fois... Quand on parle de maladie, je vois vraiment une cohabitation qui est contrainte et forcée entre la personne concernée et le mal qui se diffuse en elle. Ce mal qui va se distinguer sous toute une compilation de symptômes divers et variés, qui va tenter d'écraser la personne à qui il s'en prend pour la dominer et la réduire à néant jusque, parfois, le cas échéant, le décès. Oui. Ça peut aller jusque-là, selon les pathologies. C'est pourquoi l'idée de constamment tourner en rond au sujet de sa maladie va alimenter concrètement l'importance de ce mal et donc le conflit intérieur qui ronge. Donc, ce qui va être primordial, c'est de prendre en considération la maladie pour parvenir à la dépasser émotionnellement. Et c'est ce que va apporter l'EFT et le MDR. Donc, le MDR, je dirais que c'est une thérapie qui... Sa seule contrainte serait le fait que vous devez tout le temps être en contact avec un thérapeute. Vous ne pouvez pas le réaliser seul puisque c'est le thérapeute qui va vous guider dans les mouvements oculaires.
Ah oui, ça c'est un... Comment on appelle, un iridologue qui fait ça, non?
Pas forcément, non. Vous avez des psychologues qui peuvent l'utiliser. Okay. C'est un peu une technique comme l'EFT qui peut être pratiquée par des hypnothérapeutes, des coachs de vie, des psychologues. C'est un outil, on va dire, qu'on peut utiliser.
Je connais pas du tout.
Ah mais pourtant, il y en a une sur Gap qui pratique, ou même peut-être plusieurs. Mais c'est vrai que c'est une méthode qui devient de plus en plus reconnue avec l'EFT et qui devient de plus en plus travaillée par les thérapeutes. Et c'est vrai que ça peut permettre de dépasser des blocages émotionnel à travers le mouvement oculaire et l'EFT par contre elle va davantage se focaliser sur les méridiens énergétiques de la médecine traditionnelle chinoise et vous pouvez en fait je dirais l'avantage du coup de l'EFT c'est pas que je prêche pour mon église mais c'est presque un petit peu ça, c'est vrai que l'EFT va permettre. On a besoin d'un contact avec un thérapeute qui va transmettre la pratique, la technique. Mais une fois que vous l'avez acquise, c'est bon, vous pouvez la dupliquer autant que vous le souhaitez dans votre quotidien. Donc ça, il y a une part d'autonomie qui est quand même pas négligeable, surtout quand on parle de maladies chroniques, de maladies de l'invisible qui sont là, qui sont au quotidien. C'est vrai que c'est quand même assez plaisant et intéressant pour les patients, justement, d'utiliser des techniques qu'ils peuvent réaliser quand ils en ont besoin dans leur moment à eux, sachant que souvent, les moments où ils en ont besoin ne se prévoient pas. Parce que les douleurs se manifestent un petit peu comme ça, sans dire attention, je vais venir, prépare-toi. Non, sinon ce serait trop facile. Voilà, c'est ça. Je veux bien que tu évites que je me manifeste. Non, malheureusement, ça marche pas comme ça. Donc, c'est vrai que ces deux techniques peuvent vraiment vous aider aussi par rapport à cette approche émotionnelle. Qui a une grande part importante dans le vécu de la maladie. Ce qui va apporter du changement, c'est l'affirmation de la reconnaissance du problème, puis de l'état d'esprit, de l'approche et l'approche que l'on désire dorénavant adopter face à elle. Voilà, donc c'est une technique que je vous recommande vivement. Tant qu'on y est, effectivement, je peux vous mentionner que moi je l'utilise et c'est vrai que à la fois pour des clients, mais aussi pour moi-même dans le cadre de mes propres problèmes de santé. Et effectivement, ça accompagne beaucoup. Ça aide, ça soulage, ça apaise. Et puis, il y a toutes les actions qui sont complémentaires à ces thérapies. Donc là, ça va être un petit peu un petit melting pot qu'on peut utiliser. Donc, vous avez l'art thérapie, je pense, qui est assez connue.
Ah oui, l'art thérapie,
on peut l'utiliser, bien évidemment, qui va permettre justement d'accéder à des sentiments qui sont enfouis pour pouvoir les extérioriser. À travers ça, tout simplement, si on n'a pas envie de se mettre dans l'art thérapie, parce que certaines personnes vont se dire « Ah, mais c'est trop à la mode, et du coup, j'ai pas envie de suivre les modes et machin. » Eh bien, on peut juste se trouver une petite passion, se décoter quelque chose qui va accaparer notre esprit. Donc justement, la personne dont je vous parlais en début d'article, mon amie, elle s'est découvert une passion pour la création avec les livres. Vous savez, réaliser des hérissons avec des livres. Et donc là, elle en fait toute une panoplie pour Noël, pour Halloween, pour le quotidien.
Ah oui, c'est rigolo.
Les pliages. Exactement. Oui. Et du coup, effectivement, pendant que elle est accaparée à cette activité, eh bien déjà, elle se sent utile, elle se sent créative, elle existe en tant qu'elle-même. Ce qui fait du coup la grosse différence des autres moments où du coup elle n'existe qu'à travers la maladie lorsque celle-ci se manifeste, ou en tout cas les maladies, puisqu'en ce qui la concerne, malheureusement, elle est concernée par pas mal de pathologies à la fois. Donc c'est vrai qu'encore une fois, quand je parlais de ces personnes qui peuvent se demander pourquoi ça m'arrive, cette question de vulnérabilité, mais aussi de culpabilité, eh bien on se retrouve dans ce cadre-là.
Et puis pas seulement pour soi, pour les personnes qui nous entourent, pour notre conjoint, nos enfants. Se dire je suis tout le temps mal.
Tout à fait.
Ça doit être dur.
Quelle
pour
image
eux.
Je renvoie finalement. Et puis est-ce que du coup là on repart dans la dévalorisation, hein. Du coup on n'a pas envie de passer du temps avec moi, du coup je suis un poids, je suis un fardeau, enfin voilà. Tandis que de réussir à stimuler, à trouver des petits points qui vous permettent de vous mettre en avant, va permettre de faire la différence avec la maladie et de dire « mais je suis capable d'être autre chose que celle-ci », comme du coup tu me disais tout à l'heure, Lily. C'est vrai que c'est très intéressant. Après, sinon, il y a tout ce qui est Ma consommation d'homéopathie ou de fleurs de Bac en accord avec vos médecins, bien évidemment. Ça va être aussi des séances d'acupuncture, de sophrologie, de relaxation qui peuvent vraiment aider aussi. La lithothérapie, pardon, qui peut être intéressante également à utiliser ou en tout cas à s'intéresser. Enfin, en même temps, tout le temps que vous allez passer dans ces recherches-là va vous permettre de viser un mieux-être. Donc, du coup, le temps que vous êtes dans cet objectif, c'est autant de choses positives que vous vous attirez forcément. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. L'idée, c'est de réussir à vous faire sentir bien, à vous recharger, à prendre un temps pour vous. Et c'est à travers ces actions complémentaires que vous pouvez également utiliser des exercices du coup de relaxation, de visualisation, notamment par le biais de la fameuse PNL dont je vous ai déjà parlé, programmation neurolinguistique. Pour la visualisation, elle peut s'avérer particulièrement bénéfique lorsqu'il y a des pics de douleurs physiques à surmonter, parce qu'à travers la visualisation, on va utiliser ce que l'on appelle un lieu refuge pour réussir justement à ne pas se sentir à réussir en fait à établir une sorte de bulle avec le pic de douleur qui arrive.
Ouais, s'imaginer voilà dans une protection paradisiaque pour pour plus être dans le réel vraiment.
Exactement. Une on peut vraiment voir comme un échappatoire, un exutoire. Voilà, ça va être une manière de ok, le corps il est en train de le subir, mais pendant ce temps, moi avec mon mental, je suis en capacité d'aller au-delà pour ne pas le subir. Donc, en définitive, il paraît quand même assez évident que lors de la maladie, peu importe laquelle dont il s'agisse, les pressions physiques et psychologiques subies sont vraiment difficiles à supporter au quotidien. D'ailleurs, pour certaines d'entre elles, le corps médical est totalement impuissant, tout autant que le patient. Du coup, il tâtonne et du coup, sa prise en charge peut être très très longue, des fois sur plusieurs années. Mettre en pratique ces recommandations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va pas vous amener à la guérison, ça c'est certain. Cependant, ça pourrait être l'occasion d'un nouvel objectif à vous donner, qui vous stimulerait et vous donnerait l'envie d'aller vraiment de l'avant. Les symptômes de la maladie sont, comme du coup on le disait également tout à l'heure brièvement, sont le seul moyen de la maladie d'attirer votre attention et de vous réduire à son existence qui ne se voit pas. Donc du coup c'est très frustrant finalement de ne pas être vu, de ne pas être à la connaissance de tous pour la maladie si on veut un peu l'imaginer, la personnifier. Donc les suggestions que je vous apporte quant à votre manière de vous approcher de vous-même quand il y a des difficultés médicales, ça a pour but de ne plus vous réduire à vos souffrances mais à faire émerger ce que vous êtes avant tout, c'est-à-dire un être humain qui a ses propres valeurs, ses propres principes et sa propre personnalité en tant que telle, et vous avez votre place dans ce monde.
Ah voilà. Oui, ne restez pas isolé, surtout pas.
Ouvrez-vous.
C'est de l'ordre de la conscience et de l'inconscient, tout ça.
Absolument.
Chez les animaux, ça marche pas comme ça.
Alors là, je ne pourrais pas le dire. Pourquoi ça ne marcherait pas comme ça chez les animaux?
Non, parce que je me disais, on est des animaux, nous aussi, mais peut-être doués d'une conscience peut-être supérieure, je ne sais pas.
Mais c'est ça, peut-être. Eux, ils ont...
Est-ce qu'eux arrivent à se faire de l'auto-hypnose, par exemple?
Alors, ça, c'est... je pense que
non, mais ils dépassent, ils ont un instinct de survie qui est plus grand que le nôtre.
Moi,
donc
je me souviens toujours de mon petit chat qui s'appelait Capucine et qui, du coup, avait subi une grande intervention chirurgicale. Et puis, quelques jours avant qu'elle ne parte, du coup, elle était vraiment affaiblie, mais en fait, elle était très, très propre et elle refusait catégoriquement de se faire dessus. Et elle avait rampé, elle était sur un lit, elle avait tout fait pour aller jusqu'à sa litière pour ne pas se faire dessus. Et donc malgré les bandages, la douleur, les médicaments aussi qui pouvaient un petit peu la rendre un petit peu entre guillemets droguée quand on n'est pas bien et qu'on a comme nous quand on est sous morphine etc. Eh bien elle a tout fait pour y aller et on les voit quand même assez battants ils n'ont pas cette possibilité de se plaindre quelque part, de confier leur mal et ils font quand même.
Ouais. Ils ont plus,
cette obligation, en fait. Ils ont cette obligation, finalement, de continuer.
Survie.
Oui.
Mmh.
Et donc, nous, si on arrive un petit peu à avoir cette idée de non, je suis capable de vivre en dehors de cette maladie, ça va donner cette force supplémentaire pour avoir davantage le dessus sur elle. Oui, elle sera toujours là. Oui, elle va toujours se manifester. Mais c'est moi qui lui laisse plus ou moins le droit d'être en moi.
Ouais. C'est tout à fait ce qu'il faut retenir.
Exactement.
De cette chronique.
Exactement.
C'est vous qui êtes maître de votre corps et de votre mental.
Exactement.
Et pas la maladie.
Exactement. Voilà. Soyez plus fort qu'elle, même si elle essaye d'être plus forte, forcément. C'est sa manière à elle de vouloir s'exprimer. Mais n'oubliez pas qu'elle est en vous, elle traduit quelque chose. Ça, je pense que c'est important aussi, quand même, d'essayer de faire un petit travail là-dessus, de voir le fameux décodage biologique. Ça peut être intéressant, en général, pour comprendre. Et le fait de comprendre, en général, on le vit autrement.
Est-ce que tu peux rappeler le nom de l'auteur ?
Oui, Jacques Martel.
Jacques Martel.
Exactement, c'est le dictionnaire des mots, c'est un livre bleu où il y a intitulé dessus nouvelle édition parce qu'il y en avait une très ancienne et il est très, vous pouvez le trouver un peu partout hein, dans les grandes surfaces, sur internet, il est très 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 riche en informations et il y a à la fois l'interprétation des symptômes, la manière de réussir à les dépasser, enfin voilà, c'est très très intéressant.
Oui, et j'ai déjà vu chez une thérapeute qui est magnétiseuse, en fait.
Oui.
Il y a aussi le magnétisme, mais
exactement.
C'est une autre approche.
Le magnétisme, les ostéopathes fluidiques aussi, hein, tout ce qui se rapporte aux énergies oui. qui sont préconisées.
Et elle m'avait fait part d'une pathologie. Quand on a mal au genou, ça vient du jeu et du nous. Enfin, voilà.
Exactement.
Entre autres, pensez-y à méditer.
Exactement. Il y a toujours une signification oui. pour tout. Hein. Mm.
On a fait le tour, Claire-Elisabeth.
Exactement, on a fait le tour pour ce jeudi.
Voilà, et vous pourrez retrouver cette émission d'ailleurs, hein, si vous l'avez prise en cours, entièrement sur notre site internet. Page de Gap, ainsi s'achève cette matinale. On se retrouvera le mois prochain, c'est
ça ? Oui, avec grand plaisir, avec une toute nouvelle thématique. Et puis en attendant, je reste à votre disposition hein, sur ma page Facebook, sur mon site internet. Enfin, n'hésitez pas si justement je peux vous accompagner à travers l'apprentissage de l'EFT ou autre. C'est vrai que ce peut être aussi l'occasion d'entamer une démarche pour aller vers le mieux-être.